journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, bienvenue dans votre émission pour participer en direct. Composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 depuis la France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde. Aujourd'hui dans le JDA, le Burkina Faso est-il en train de perdre le nord comme au Mali hein. Le pays est depuis quelques mois la cible d'attaques djihadistes, écoles, tribunaux, assassinats de préfets. Ce sont les symboles de l'État qui sont attaqués. Il faut savoir que depuis 2016, le Burkina Faso a été la cible de 80 attaques qui ont fait au moins 130 morts. Une situation qui n'est pas sans rappeler le Mali voisin, hein, où justement une dizaine de personnes ont été tuées ce week-end à Boulikessi, à la frontière avec le Burkina. Bavure de l'armée pour les uns, neutralisation de terroristes pour les autres. Difficile de savoir qui croire. Alors que vous inspire cette situation? Nous en parlerons avec un invité, Aziz Dabo. Il est secrétaire exécutif adjoint et porte-parole de l'ANAF, hein, c'est la nouvelle alliance du FASO, le parti de Djibril Bassolé. Je rappelle le numéro pour participer, 00 33 1 55 07 58 00. Exceptionnellement, pas de message du répondeur, nous avons quelques soucis techniques, donc sans plus tarder, le JDA du jour.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Aujourd'hui dans le JDA, le Burkina Faso menacé par le terrorisme. Pour en parler, nous recevons Aziz Dabo. Aziz Dabo, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour aux auditeurs.
Bonjour à vous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes secrétaire exécutif adjoint de la NAFA, la nouvelle alliance pour le FASO, et porte-parole, hein, c'est le parti de Djibril Bassolé. On en dira un mot. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères hein, du Burkina Faso, poursuivi pour trahison, et dont le procès est en cours, en tout cas actuellement suspendu. Il devrait reprendre le 25 mai prochain. Nous en parlerons avant la fin de cette émission. Avant cela, tout d'abord, une réaction à cette insécurité grandissante. J'allais vous parler du Nord, mais depuis hier, depuis cette nuit, des échanges de tirs hein, se font entendre dans la banlieue de la capitale, Ouagadougou. Selon les autorités, trois assaillants hein, auraient été tués et un gendarme. Les personnes qui se trouvaient dans une maison dans la périphérie de Ouagadougou ont été suspectées de mener justement des activités suspectes. Que vous inspire cette nouvelle insécurité qui touche la capitale?
C'est vrai que j'ai reçu l'information comme quoi dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou, il y a des individus qui ont été signalés par leurs voisins parce qu'on a suspecté leur comportement et la gendarmerie est intervenue. Mmh. Elle a voulu les appréhender. Ça s'est terminé par des échanges de tirs. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons 6 morts du côté des assaillants, 6 blessés du côté de la gendarmerie. Et il semblerait qu'il y a un des blessés du côté de la gendarmerie qui aurait succombé à ses blessures. C'est déjà présenter nos condoléances aux familles éplorées et vraiment encourager les forces de défense et de sécurité pour ce qu'elles font, parce que ce n'est pas évident, cette menace qui est nouvelle, parce qu'on ne voit pas l'ennemi qui est invisible. Les encourager qu'ils continuent ce combat, prompt rétablissement aux blessés, parce qu'il faut vraiment du courage pour y aller. C'est vrai que je vais revenir aux attaques du 2 mars où l'état-major de l'armée nationale a été attaqué en plein cœur, plein Ouagadougou, autour de 10 heures. Et en même temps, l'ambassade de France aussi. Ce jour, ça a été vraiment, je pourrais dire, l'apocalypse pour nous, parce que c'est quand même le cœur de l'armée burkinabé. Et en plein jour, et tout ça, c'est venu nous inquiéter, parce qu'en réalité, il y a des attaques terroristes tous les jours, du côté du Nord, du côté du Sahel, tous les jours, ça et là. Maintenant, ils sont passés à des... Maintenant, ils prennent des gens en otage. Il y a des enlèvements et des assassinats tous les jours. Des gens qui sont menacés. On se retrouve aujourd'hui, lorsque j'ai lu le rapport hier de Human Rights, je pense qu'on se retrouve à avoir près de 216 écoles fermées, 12 000 personnes déplacées, 20 000 élèves qui ne sont plus scolarisés. Bon, dans le Nord, on s'était peut-être un peu habitué, même si quand même on est assez triste. Mais dans la capitale de Ouagadougou, où on estime quand même qu'il y avait, c'était un havre de paix sous-régional.
Qui a connu quand même déjà plusieurs attentats, hein, de terribles attentats. On pense à l'attaque du Cappuccino.
Le 15 janvier 2016, c'était pratiquement le début, je dirais, des hostilités. Ça nous avait quand même assez profondément affligés parce qu'on n'était pas habitués à ça. on a vécu dans une situation où probablement on voyait ça à la télévision, c'était nouveau chez nous. Fallait probablement que l'armée se réorganise parce que c'était une nouvelle menace. Donc vraiment, on est assez inquiet parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va dans cette situation. Parce que personne n'est en sécurité dans la capitale et on a l'impression qu'on n'a pas les voies et moyens pour arriver à combattre ses ennemis, ses adversaires, ses voyous, ses bandits, ses délinquants. Et là, vraiment, ça crée la psychose du côté de Ouagadougou. Et vous trouverez qu'aujourd'hui, la capitale de Ouagadougou et la capitale du Burkina, Ouagadougou, Kwame Nkrumah, qui était l'une des villes les plus animées, elle est morte aujourd'hui. Les gens sont apeurés, les gens fréquentent de moins en moins les endroits, les débits de boissons, ils fréquentent de moins en moins les restaurants, ils préfèrent maintenant take away, ils vont chez eux. Mmh. Il y a vraiment une psychose et là, ça pose effectivement un problème.
Alors justement, on parlait du Nord. Dans le Nord, il y a un catéchiste, un chrétien, Mathieu Savadogo, tout à fait,
avec sa femme, je pense.
Auparavant, c'était un enseignant. Est-ce que selon vous, il y a un véritable projet de ces groupes de faire tomber le Burkina, de s'en prendre à l'État et de créer, comme vous venez de dire, la psychose?
Après quelques recherches que j'ai eu à faire par rapport à leur mode opératoire, il faut reconnaître qu'en réalité, leur objectif principal, c'est de déstructurer l'État pour imposer leur modèle. Parce qu'ils s'attaquent aux symboles de l'État, ils s'attaquent aux gendarmeries, ils s'attaquent
aux
préfets, aux élus locaux même. Ils s'attaquent même à certains chefs, ils s'attaquent aux conseillers qui sont aussi des élus. Ils s'arrangent de telle sorte à menacer les enseignants pour fermer les écoles. Donc, on est amené à se dire que c'est quand même une volonté de ces voyous, de ces délinquants, de s'attaquer vraiment et de déstructurer l'État.
Vous avez dit tout à l'heure quelque chose de terrible en concernant le Nord. On s'était presque habitué aux attaques dans le Nord. Est-ce que vous pensez que la réponse de l'État, le gouvernement qui a tenu son premier conseil de défense jeudi dernier, est-ce que finalement l'État a apporté les moyens nécessaires pour combattre cette insécurité dans le Nord ?
J'en doute fort parce que il y a quand même certaines analyses qui ont montré qu'après l'insurrection des 30 et 31 octobre, le départ de l'ancien président Compaoré qui quand même avait une certaine influence sur la sous-région.
Qui avait des relations spécifiques avec ses groupes, peut le dire.
A priori, c'est ce qui est dit, il avait certaines relations, donc ça nous épargnait quand même un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, tout juste après son départ, on s'est retrouvé confronté à une situation d'insécurité où probablement les renseignements font défaut, c'est ce qui a été dit, parce que l'ancien chef du RSP, le général Gilbert Diendiré, avait quand même bâti un réseau de renseignements.
Actuellement poursuivi par la justice.
Oui, actuellement poursuivi par la justice. Le général Bassolé avait été quand même un acteur dans certaines négociations au niveau de la zone. Il était envoyé spécial de l'Organisation de la coopération islamique pour le Sahel. Il avait déjà commencer quand même certaines concertations avec ces groupes armés et on se souvient que la médiation du côté du Mali, il l'a menée sous l'égide des Nations Unies, sous l'égide de la CEDEAO. Donc il y avait quand même ces petits liens qui permettaient quand même qu'on puisse savoir comment est-ce que les choses fonctionnaient. Mais aujourd'hui, tout ce réseau semble être tombé. Aussi bien, il faut le reconnaître, l'armement fait défaut. Il y a un manque de moyens criards parce qu'il semblerait que ceux qui sont au nord et les militaires ne sont pas forcément bien traités. Ils n'ont pas forcément les armes qu'il faut. On se rappelle qu'ils avaient été attaqués un jour en plein fouet et c'était vraiment triste. Donc tout ça, ça fait qu'il y a quand même des inquiétudes liées quand même aux moyens financiers qui, s'ils sont bien sûr alloués aux forces de défense et de sécurité qui se retrouvent dans cette zone. Parce que tout laisse à montrer que ce n'est pas forcément le cas et on n'a pas forcément la solution parce que tenir un conseil de sécurité maintenant alors que les attaques datent depuis le 15 janvier 2016, c'est pourquoi je dis qu'on s'était pratiquement habitué à ce que ce soit normal que chaque jour il y ait un événement dans le Nord. Et même qu'on puisse arriver à la capitale. Et moi, je reviendrai sur le problème lié au renseignement parce que Jeune Afrique nous a donné l'information comme quoi, pour l'attaque du 2 mars, nos autorités avaient l'information que ces terroristes avaient traversé la frontière et qu'une attaque imminente était en cours. Mais rien n'a été fait. Et mieux, c'est vraiment une honte pour nous d'avoir été attaqués dans ce lieu-là. Donc, on est à même de se demander pourquoi maintenant est-ce que ce Conseil de sécurité quelles sont les décisions qui vont en découler, quelles sont les résolutions qui ont été prises. Et là, on est amené encore à parler de l'amateurisme de notre système sécuritaire aujourd'hui, même si encore je tiens à saluer les efforts des forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, qui se battent au péril de leur vie tous les jours. Maintenant, c'est aux dirigeants de mettre tout en œuvre pour que les équipements, pour les motiver, pour les encourager. Ça, c'est une réalité.
Défaillance du renseignement, nous dit Aziz Dabo, porte-parole de l'ANAFA. Restez à l'écoute, Aziz Dabo. Je rappelle le numéro hein, pour intervenir, chers auditeurs, 01 55 07 58 00. On reviendra dans quelques instants sur ce rapport, justement. Hein. Vous en avez parlé du Man Walk Watch, hein, qui dénonce aussi les exactions de ces groupes djihadistes, mais aussi celles de l'armée burkinabé. Vous nous direz ce que vous en pensez. On se dirige avant cela vers N'Djamena, au Tchad. Écoutez, Ozana. Ozana, bonjour.
Bonjour, Stéphanie, et bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour, Ozana. Vous vouliez réagir à cette actualité au Burkina Faso et à cette menace terroriste?
Justement, et moi je peux dire que la menace terroriste aujourd'hui dans nos pays africains est due à la faiblesse de nos systèmes sécuritaires et aussi au problème d'une bonne direction des renseignements. Sinon, comment comprendre que parfois des choses se passent et puis le gouvernement n'est pas au courant et c'est d'abord après avoir passé l'acte que les gens se réveillent. Donc moi j'interpelle surtout nos dirigeants à voir un peu à les forces de l'ordre. Et le cas du Burkina Faso, moi je veux dire que c'est peut-être aussi les ex-éléments du président de Tshisekedi Blaise Compaoré. Parce que vous savez, le monde est aujourd'hui compliqué, donc peut-être ça serait une organisation des éléments du président de Tshisekedi qui peuvent aussi trouver l'ordre ou menacer la sécurité de la population. Donc, le gouvernement du Burkina doit vraiment investir et puis avoir une force de l'ordre qui est capable d'avoir des informations et pourquoi pas inclure aussi la population. Parce que parfois, la population n'est pas vraiment inclus dans cette lutte. Cela fait que ce n'est pas facile. Parfois, du côté du gouvernement...
Ozana, justement, je viens de me souvenir quelque chose. Je crois que vous vous connaissez un peu, vous, en renseignement, si je ne me trompe pas. Quel conseil vous donneriez aux autorités burkinabées?
Allô?
Ah, Ozana, vous m'entendez?
Oui, je vous reçois.
Je disais, je crois, hein, si je me souviens bien, que vous connaissez un peu en renseignement, puisque par votre travail. Quel conseil vous donneriez aux burkinabés?
Moi, je pense que d'abord, pour les autorités, ils doivent... Parce que comme ici, au Tchad, on a un groupe qu'on appelle les ANS. Ceux-là sont là au sein de la population. Ils se renseignent à tout moment. Parfois, des étrangers qui arrivent, des personnes suspectes, ils dénoncent. Et comme la population aussi est concernée, par exemple, si dans un quartier, on voit une nouvelle tête qui arrive, qu'on ne connaît pas bien la personne, automatiquement, on dénonce à ces ANS. Eux, ils viennent maintenant, ils prennent la personne, ils l'interrogent, on cherche à avoir ses identités, tout ça. Mais si ce travail ne se fait pas au sein même de la population, cela fait que les terroristes vont vraiment à se mettre facilement au sein de la population et puis commettre leurs actes. Donc, le gouvernement doit plutôt former même des citoyens, pourquoi pas des citoyens, pour les outiller avec des stratégies. Pour leur permettre maintenant, en cas de quelque chose, la population va se prendre et puis faire appel automatiquement aux forces de l'ordre. Et pourquoi pas aussi avoir un numéro 20. En cas de quelque chose, on saisit rapidement les autorités qui sont en charge de la sécurité. Puis bon, cela va permettre à réduire un peu le risque de la menace terroriste. Quoi. Sinon, le fait de parler sans des actes concrets, je pense que cette lutte serait loin d'être gagnée.
Faut impliquer la population, vous nous dites, Ozana, du côté de N'Djamena. Merci beaucoup. On va revenir dans quelques instants avec vous, Aziz Dabo, hein, justement, sur le rôle de la population. On va écouter Apollinaire avant cela, qui lui aussi est à N'Djamena. Apollinaire, bonjour.
Bonjour, madame Stéphanie.
Bonjour, monsieur Apollinaire. Vous avez entendu, hein, votre compatriote Ozana qui dit qu'il faut impliquer davantage la population dans cette lutte contre le terrorisme et dans le renseignement. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je viens d'écouter l'invité avec intérêt. Mmh. Il a bien relaté les difficultés liées aux attaques des djihadistes dans le pays au Ouagadougou. Mmh. Donc, ce n'est pas seulement le Burkina qui est touché par ces attaques récurrentes, c'est un peu partout en Afrique. Donc, le gouvernement burkinabé doit mettre l'accent sur ces difficultés afin de relever les défis. Donc, il faut que le gouvernement collabore avec la population. Il faut impliquer la population dans la lutte contre les djihadistes parce que c'est la population qui est le premier point de livrer les informations au gouvernement. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut mettre l'accent. Et non seulement ça, le gouvernement burkinabé doit faire l'effort à former les policiers, les gendarmes, les armées, avec et les doter des moyens importants pour pouvoir faire face à ces djihadistes qui nous menacent de temps en temps. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut essayer de voir et essayer de développer pour pouvoir éradiquer les djihadistes.
Merci à Apollinaire de votre contribution. On sent bien, Aziz Dabo, je reviens vers vous, cette tension entre un phénomène qu'on dit international et en même temps les implications locales. L'ONG Human, j'avais deux petites questions suite aux interventions de nos auditeurs. L'ONG Human Rights Watch a publié un rapport pour dénoncer les exactions des djihadistes, il faut le dire, mais aussi de l'armée burkinabé. Corinne Dufka, qui est directrice pour la région du Sahel de l'ONG, elle a déclaré ceci: l'insécurité croissante au Burkina Faso a conduit à des crimes terribles commis tant par des groupes armés islamistes que par des membres des forces de sécurité de l'État. Et il y a un témoin qui dit ceci dans ce rapport: le jour, nous avons peur de l'armée, la nuit, des djihadistes. Dans ce contexte, comment avoir la confiance de la population? Comment impliquer la population dans la lutte contre le terrorisme? Est-ce que la population n'est pas prise en étau, finalement, dans ces régions qui sont aussi délaissées par l'État? On parle du nord du Burkina Faso, on parlera du Mali dans quelques instants avec Koulibaly.
C'est vrai que... Parfois, je dis un pas parfois, le terrorisme actuel qui réside dans la situation sahélienne est dû au fait d'opportunistes qui surfent sur la misère des populations parce que les conditions de vie sont assez difficiles. Il faut reconnaître que quand même le climat même n'est pas du tout facile. Le taux de chômage est de 14,4%, le taux de pauvreté est de 21%. Donc, avec toutes ces difficultés, les jeunes se radicalisent et prennent parfois des positions. Aujourd'hui, je vais vous dire encore que je tiens à féliciter vraiment les forces de défense et de sécurité pour ce qu'elles essaient de faire. Mais c'est sûr qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a, selon certains rapports qui disent qu'il y a des exactions, et même on a vu que certains ont été abattus tout simplement parce qu'ils auraient donné des renseignements aux forces de sécurité contre ces terroristes et ils n'auraient pas été protégés. Certains ont subi et continuent de subir des menaces. Donc, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de confiance entre les forces de sécurité et les populations parce qu'il faut reconnaître que ces terroristes sont au sein des populations. Donc, si les populations dénoncent certains terroristes et ne sont pas protégées, ça fait aujourd'hui que ces populations ont peur. Et parfois, lorsque quelqu'un est dénoncé de terrorisme, il faut reconnaître qu'il n'y a pas forcément des enquêtes qui sont ouvertes. Certains ont été abattus dans des situations parce qu'elles se sont retrouvées dans des lieux où il ne fallait pas. Donc, il faut reconnaître quand même qu'il y a des bavures. Mais tout cela, je me dis que c'est dû aussi parfois à l'ennemi qui est invisible. Et vous ne savez pas d'où peut sortir une calache, vous ne savez pas d'où peut sortir une arme. Donc, parfois, l'instinct de survie peut pousser, et bien sûr, les forces de défense et de sécurité à vouloir se protéger.
J'avais une deuxième question, Aziz. Bon, après, ensuite, on va accélérer, puisque cette mission passe vite et il y a encore de nombreux auditeurs qui veulent intervenir. Oui. Est-ce que, une petite réponse par oui ou par non, est-ce que vous savez si Blaise Compaoré a encore des liens avec les groupes qui étaient hébergés autrefois à Ouagadougou? Est-ce qu'il a encore des contacts avec ces gens-là? Est-ce qu'il pourrait aider le Burkina?
Je pourrais dire qu'il faudrait peut-être poser la question à Blaise Compaoré lui-même parce que je ne saurais vous le dire. Et j'ajouterais que je ne sais pas. Mais dans cette lutte aujourd'hui contre le terrorisme, ce que je pourrais dire, c'est qu'aucune main n'est de trop. Alors, aucune main n'est de trop parce que tout Burkinabé qui meurt chaque jour, c'est certain de nos fils du Burkina Faso comme père. Et si Blaise Compaoré pourrait apporter sa contribution, pourquoi pas? Et il y a un sondage qui dit que 53% des Burkinabés souhaiteraient un retour de Blaise Compaoré dans la paix.
Vous avez la source du sondage, Aziz Dabo?
Oui, le sondage a été effectué par le site lefaso.net, qui est l'un des sites quand même les plus suivis au Burkina Faso, qui cumule près de 80% des lecteurs.
Bah, j'invite les Burkinabés à nous appeler pour dire ce qu'ils en pensent. 01 55 07 58 00. On retourne du côté du Standard. Écoutez Koulibaly, justement, qui voulait faire un lien avec le Mali. Koulibaly, bonjour.
Bonjour, Madame Atman.
Bonjour, Monsieur Koulibaly. Alors, la situation au Burkina est très proche hein, de celle du Mali. On a l'impression que c'est une sorte de contamination. Ce week-end, hein, au Mali, à la frontière avec le Burkina Faso, une dizaine de personnes ont été tuées. Pour l'armée, il s'agit de terroristes. Pour d'autres, il s'agit de simples civils. Qu'est-ce que cela vous inspire, Koulibaly?
Il faudra reconnaître que bon, le problème du terrorisme du Burkina, déjà à la base, je veux dire, a été un terreau à un certain moment de tous ces groupes terroristes qui transitaient par le Burkina et le centre du Mali avec lequel le Burkina a frontière. Donc ces terroristes qui vaguent du Mali au Burkina, du Burkina au Mali, dans un autre sens un peu la Mauritanie aussi. Donc ça a accentué qu'ils se sont vraiment basés à l'époque où il y avait Blaise Compaoré au Burkina. Donc ce qu'il faudra retenir aussi, c'est que la population, il faudra impliquer la population à les dénoncer et en même temps aussi pouvoir les protéger. Parce que la population, quand même, on les reconnaît. La population, les populations locales les reconnaissent. Souvent même qu'ils se font de la journée parmi cette même population, et la nuit, ils font leurs attaques.
Et c'est ce que, Aziz Dabo parlait d'ennemis invisibles, mais c'est surtout d'ennemis qui est fondu dans la population.
Dans la population, effectivement. En journée, ils sont comme tout le monde. Donc, nos militaires qui sont déjà à la base sous-équipés ou mal formés, ne savent plus à qui faire face.
Donc, beaucoup de peur chez les militaires.
Ça peut amener des exactions, effectivement. Donc, c'est assez aléatoire. Mais le problème, c'est au niveau des renseignements. Le problème, c'est au niveau surtout des renseignements. Mais aussi, quand les populations locales donnent les renseignements, il faudra pouvoir que l'armée les protège. Donc, les moyens doivent être mis, l'armée qui est sous-équipée, les moyens doivent être mis à leur disposition, un peu aussi. Que ce soit au Burkina ou au Mali, c'est pareil.
Mais du coup, Koulibaly, la réponse peut-elle être seulement sécuritaire?
Oui, tout à fait. Elle est tout à fait sécuritaire.
Seulement sécuritaire. Je me demanderais toujours la même question.
La sécurité passe par le renseignement. Et qui aussi, les populations ne peuvent pas s'engager. Ouais. Moi, je dénonce aujourd'hui. Et demain, je vais être fusillé. Ou ma famille va être fusillée. Donc, je ne me prendrai pas le risque de les dénoncer, même si je les connais. S'ils sont mes voisins, je ne les dénoncerai pas.
Et en même temps, alors du coup, si vous ne les dénoncez pas, j'imagine que du côté des forces armées, vous allez passer pour leurs complices.
Voilà.
C'est ça, parce qu'on disait que la population est prise en étau.
Au travers de la population. Donc, comme l'armée ne sait plus faire la différence, qui est qui, donc souvent, ça peut amener à des exactions.
Merci, Koulibaly, hein, de votre contribution à cette émission. Je vous souhaite une excellente journée. Dans un instant, on va écouter Herman, puisqu'on parle, on a évoqué le Conseil national de défense qui se tenait jeudi dernier à Ouagadougou. Je dois quand même vous dire les décisions qui ont été prises à l'issue de ce Conseil de défense, selon le président Roch-Marc Christian Caboret. Des dispositions seront prises dès les semaines à venir pour assurer la sécurité des représentants de l'État dans ces zones, parce que c'est impératif. On a perdu des maires, on a perdu des préfets. Le rôle des forces de défense et de sécurité et non seulement de défendre l'intégrité du territoire, mais également de veiller à ce que les populations aient la sérénité pour vivre dans leur contexte. Dans ce message, le président Roch-Marc Christian Caboret assure que des moyens supplémentaires seront envoyés dans le nord du pays. On écoute Herman encore. Aziz Dabo, et je reviens vers vous pour deux, trois questions de conclusion. Herman, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Bonjour monsieur Herman.
Oui, bonjour.
On vous écoute, bienvenue. Vous dites, le gouvernement burkinabé n'arrive pas à lutter contre ces terroristes. Et il y a une espèce de déni, vous dites, de la part du gouvernement?
Oui, il y a il y a même plus que ça. En fait, vous savez, il y a comme... en fait, c'est comme s'ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas gérer la situation. Et ce qui est alarmant, c'est qu'il n'y a pas cette humilité-là pour reconnaître qu'ils n'y arrivent pas. Vous savez, au Burkina, je pense, hein, nous avons les hommes qu'il faut. Il y a des fiches dans ce pays-là, en fait, qui maîtrisent ce dossier et qui sauront trouver la manœuvre et en tout cas ce qu'il faut faire pour qu'on puisse sortir de là. Mais visiblement, pour des raisons peut-être électoralistes, ils sont en train donc d'essayer...
Vous pensez à l'ancien pouvoir, Herman, qu'on soit clair, c'est ça? Parmi les hommes capables de résoudre ce souci?
Non.
Voilà, vous pensez aux membres du CDP, voilà.
De l'ancien pouvoir, mais il y a des hommes capables aussi dans les forces de défense et de sécurité, mais à même réellement de nous sortir de cette situation-là. Mais il faut que, quelque part, ceux qui sont chargés donc de donner les ordres et les instructions, on puisse mettre à la place, à la bonne place, la bonne personne, pour qu'il y ait cette confiance-là, et pour qu'au finish, vous savez, le problème, quand on dit que les populations n'ont pas confiance, etc., ils hésitent entre les terroristes, ils ont peur des terroristes de la nuit, et ils ont peur des soldats de la journée, mais en réalité, on n'en est pas là. Il faut juste, peut-être qu'à un moment donné, on permette aux populations d'avoir confiance dans les hommes qui, en réalité, sont chargés de lutter efficacement contre ce problème-là. S'il y a cette confiance-là qui est établie, mais je vous assure que le problème, je pense, ne se posera pas à ce niveau-là. Parce que
et vous pensez que l'ancien pouvoir est encore digne de confiance, Herman, selon la population?
Mais justement, je pense qu'il y a une incapacité au sein des populations, une incapacité de ceux qui sont en place aujourd'hui à régler ce problème-là. Et il est important, c'est pourquoi même on a l'impression qu'il y a beaucoup d'amateurisme. Vous savez, ça fait combien d'années qu'ils sont là? Et il a fallu attendre dernièrement pour organiser ce fameux conseil de sécurité. Mais ça prouve même qu'il y a un problème de vision. Les gens ne se rendent pas compte, mais on est en train lentement... mais sûrement en train de perdre le nom du pays. Il faut qu'ils se réveillent, rassembler tous les fils de ce pays-là capables de régler le problème, mettre de côté ces orgueils-là et ces choses à n'en pas finir de nous expliquer que c'est à cause de BS qu'on pourrait, si on en est là. Non, écoutez, nous, on était dans la rue en 2014, on a chassé BS qu'on pourrait, c'est très bien, mais ça fait 4 ans qu'il est parti. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas à cause de lui qu'on est en train de perdre le nom du pays. Il faut rassembler tout le monde pour qu'on puisse sauver la situation.
C'est intéressant. Herman, je vous interromps pour laisser le temps à Aziz Dabo de répondre. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Herman, qu'est-ce que vous en pensez, Aziz Dabo? Vous êtes d'accord avec Herman? Il faut réconcilier les fils et les filles de ce pays pour lutter efficacement contre le terrorisme.
Vous savez que c'est très important parce que même au sein de l'armée, il y a de grandes divisions. La transition est venue, par exemple, installer l'ancien premier ministre, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida, à la place d'un général de division. Ça a créé quand même des divisions au sein de l'armée parce qu'on n'est pas arrivé à comprendre en réalité comment un lieutenant-colonel peut forcer la main à un général. Et ça continue aujourd'hui. Vous avez des difficultés entre l'armée, la police, la gendarmerie. Le RSP ayant été dissous. Aujourd'hui, vous avez la gendarmerie qui semble avoir pris la place du RSP sous la transition et la gendarmerie avait les faveurs du régime en place. Donc, toutes ces susceptibilités sont assez compliquées. Et le GSPR, par exemple, le groupe de sécurité présidentielle, où vous avez la police, vous avez la gendarmerie, vous avez l'armée, vous allez toujours trouver qu'il y a des difficultés pour coordonner les activités. Il y a des difficultés où certains refusent même des ordres, par exemple, de la gendarmerie, des policiers. Ça, ce sont des exemples. Et parfois, c'était assez difficile. Donc, toute la cohésion au sein de l'armée pose aujourd'hui un problème. C'est pourquoi nous parlons de réconciliation nationale, nous parlons de cohésion nationale. Nous parlons de pardon, nous parlons de s'asseoir autour d'une table ronde pour essayer de trouver les voies et moyens, transcender nos divergences pour construire un Burkina Faso qui va aller de l'avant.
Alors justement, on ne peut pas terminer cette émission sans évoquer le cas de votre leader, Djibril Bassolé, et celui, vous l'avez prononcé son nom, du général Gilbert Diendéré, qui sont, alors je crois que l'accusation concernant Djibril Bassolé est celle de trahison et d'entente avec une puissance étrangère. Le général Gilbert Diendéré, lui, est accusé d'avoir voulu tenter un coup d'État en 2015 au Burkina Faso. Leur procès était suspendu. Il doit reprendre le 25 mai prochain. Oui. Qu'attendez-vous de ce procès, tout simplement?
Pas grand-chose. Nous n'attendons plus grand-chose de ce procès.
Parce c'est un procès à charge politique?
Absolument. C'est un procès politique dans la mesure où les décisions qui déjà découlent des préalables avant qu'on aille au fond du procès sont quand même assez extraordinaires. sous la transition a consacré une part très importante à l'indépendance de la justice. Et c'est inscrit dans notre constitution. Nous n'avons pas compris comment est-ce que le président du Faso est venu encore nommer des juges au sein d'une juridiction, même si on dit que cette juridiction semble être spéciale et on vient nous faire comprendre que cette nomination semble être au-dessus de notre constitution. Nous n'arrivons pas à comprendre cela. Un autre fait, nous avons demandé, nos avocats ont demandé à ce que le juge se désiste de ce dossier parce qu'il a déjà rendu une ordonnance dans le même dossier en 2016. Une ordonnance de dessaisissement d'un cabinet d'instruction au profit d'un autre cabinet d'instruction. Et c'est sûr, c'est dans le code pénal. Lorsqu'on a déjà connu d'un dossier, on ne peut pas le juger. Ça, ce sont des faits qui sont quand même dans le code. Et on a quand même trouvé que le ministre de la Justice, vous imaginez, actuel, qui avait été ministre sous la transition, il avait été pris en otage par le RSP. Lui-même, il est parti civil du dossier. Et lui-même est celui qui a reçu la lettre du premier président de la Cour d'appel pour choisir les magistrats qui doivent présider au niveau de cette cour. Est-ce que c'est possible d'être en même temps jugé parti? Donc, quelque part, je pense que le procès, c'est même pas que je pense, c'est très clair. Le procès est politique. Ces préalables ont été, bien sûr, laissés à l'appréciation du tribunal. Et il n'y a pas eu de réponse quand même qui puisse satisfaire le droit. Rien que le droit dans le respect des textes et des lois du Burkina Faso.
On continuera bien sûr à suivre cette actualité burkinabé. Je rappelle que ce procès reprend le 25 mai prochain à Ouagadougou. Merci beaucoup Aziz Dabo d'être venu jusqu'à
merci
nous.
Merci à vous, merci aux auditeurs. Ce fut un plaisir.
Je les remercie également les auditeurs. Je leur rappelle quand même que vous êtes secrétaire exécutif adjoint de la NAFA, c'est la nouvelle alliance pour le Faso, parti de Djibril Bassolé. Nouvelle alliance du Faso, d'accord, voilà, c'est très clair. Et vous êtes également porte-parole. Cette émission sera rediffusée ce soir à 19h20. On se retrouve demain pour une nouvelle édition en direct. En attendant, prenez grand soin de vous et des autres aussi. C'est important à l'écoute d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À demain.